Les rendez-vous M28. Racontons demain, prendre acte, relier et se projeter avec le vivant. Ce cycle de rencontres mensuelles s'inscrit dans le cadre de l'événement 25, les chemins du vivant portés par M28 Terre de Culture. Ces rendez-vous visent à relier les professionnels et publics associés à la démarche et à partager des réflexions autour de thématiques communes. Un lundi par mois, deux intervenants, artistes, chercheurs ou porteurs de projets, sont invités à dialoguer autour de problématiques thématisées à l'Hôtel d'Aurès à Montpellier, cœur battant de Montpellier 2028. Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.
Bonjour, bienvenue, je suis Sophie Léron, la présidente de Montpellier 2028 Terre de Culture. D'abord, je vais me permettre de vous souhaiter une bonne année à titre individuel et collectif, évidemment. Vous dire que cette rencontre de ce soir s'inscrit dans le cadre de l'événement 25 porté par l'association qui s'appelle « Les chemins du vivant ». Et qui aura lieu du 28 septembre prochain au 4 octobre, et que nous préparons ce rendez-vous collectif par un certain nombre de rencontres mensuelles, en l'occurrence, qui permettent à la fois à des porteurs de projets, à des acteurs du territoire, à des artistes d'échanger en liberté, c'est-à-dire sans notre intervention, mais sur des thématiques qui sont en écho avec ce que porte l'association Montpellier 2028. Vous dire que cet événement 2025 s'est porté par Nicolas Dubourg en tant que directeur artistique qui sera amené à présenter nos intervenants tout de suite et que le prochain rendez-vous aura lieu le 10 février prochain et que vous pouvez retrouver toutes nos rencontres sur les radios locales Montpellier-Rennes, coordonnées par le CRLO, et notamment lundi prochain par Radio Clapas et sur nos réseaux sociaux de l'association Montpellier 2028. Je ne vais pas être plus longue puisque l'objectif c'est vraiment de vous écouter. Je remercie ce soir Marie Luçon et Arnaud Vestier de prendre le temps et de se confronter à l'exercice un peu particulier que nous leur proposons. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'idée c'est d'avoir une vingtaine de minutes d'intervention de nos intervenants entre eux et puis ensuite de les laisser échanger avec vous si vous avez des questions, des interrogations, des propositions à porter sur la thématique que Nicolas va vous présenter également, les mémoires de l'eau.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous. On est un peu au cœur de nos sujets ce soir, de manière assez directe. L'eau nous a beaucoup occupés, préoccupés dans la candidature de Montpellier et elle va continuer à être un des sujets puisque nous allons travailler sur les chemins du vivant. Et un de ces chemins, évidemment, c'est les chemins hydrologiques qui sont tracés par les méandres que font les rivières. Marie Luçon, vous êtes docteur en sociologie des sciences, cinéaste. Vous avez précisément signé un film qui s'appelle Méandres. Vous aurez l'occasion d'y revenir, je pense, ce soir. Et vos travaux portent sur la restauration des rivières comme champ d'expérimentation des politiques, en particulier des relations entre les vivants et les non-vivants. Et donc, on va explorer un peu toutes ces notions ce soir. Arnaud Vestier, vous êtes ingénieur hydrologue. Vous travaillez à la métropole de Montpellier. On a eu l'occasion, avec Sophie Léron, de visiter un des sites qui occupe vos travaux, puisque nous avons sur notre territoire une rivière qui s'appelle le Lèze, sur laquelle nous avons travaillé, je pense à notamment les travaux que Bipolar a engagés avec le Lèze et qui vont se poursuivre bientôt avec la Mausson. Donc voilà, tous ces fleuves côtiers qui traversent notre territoire et qui sont de véritables interrogations où la question de l'aménagement, la question de la ressource, la question du vivant se pose de manière quotidienne dans un dans un territoire qui est particulièrement soumis à des contraintes, bien sûr les contraintes de réchauffement climatique, mais aussi des contraintes qui sont liées à la démographie, à l'artificialisation des sols, etc. Donc on vous laisse la parole. Et bien sûr, vous êtes assez, j'ai envie de dire, emblématique de ce qu'on essaye de faire à M28, des rencontres entre des gens de culture, des gens qui travaillent dans le domaine de la création et des acteurs du territoire, quel que soit leur domaine de compétence, de manière à montrer que finalement, par l'angle artistique et l'angle culturel, on arrive à mettre en lumière, faire des pas de côté sur des problématiques des fois excessivement complexes. Et c'est bien affronter la complexité par l'art qui est un des objectifs de Montpellier 2028. À vous la parole.
Alors bah, bonsoir tout le monde, c'est un exercice voilà, qu'on se fait tous les deux, on ne se connaissait pas jusqu'à présent. Je vais un peu me présenter, dire d'où je parle, voilà. Je suis donc un petit peu décrit avant, mais donc j'ai la particularité effectivement d'être à la fois chercheuse et artiste cinéaste, et de concilier les deux domaines ensemble, c'est-à-dire que vraiment de travailler comme chercheuse en ce moment avec le médium filmique. Juste pour aller brièvement dans ce qui s'est passé auparavant, j'ai fait donc une thèse en sociologie des sciences à Montpellier, à l'INRAE, et en fait j'ai précisément travaillé sur toute la difficulté, toutes les controverses qu'il y a lorsqu'on essaye de restaurer du vivant, de réparer les liens avec le vivant. Et c'était un travail absolument passionnant. J'ai travaillé sur la Durance, les Gardons, le Vistre et le Drac. Et donc c'était une étude sur 4 rivières et 4 projets de restauration qui ont abouti ou qui ont échoué. Et à la suite de cette thèse, en fait, j'ai je me suis rendu compte que le travail académique était passionnant, mais finalement, ce qui faisait la particularité des rivières, et notamment nos attachements aux rivières, avait complètement disparu de mon travail. Il n'était pas palpable. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un film documentaire que j'ai co-réalisé avec Émiane Bortoli, qui a été produit par Yannès Fouillet, avec le CNC, Mediapart, Tank. Enfin, c'était incroyable comme odyssée. Je ne vais pas vous en rentrer dans le détail. Mais tout ça pour dire que finalement, ce que disait Nicolas, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que c'est OK, je pars sur une compréhension profonde des questions de restauration écologique et comment finalement j'arrive à les traduire plus ou moins, avec plus ou moins de facilité, en langage filmique. Donc voilà, aujourd'hui je travaille comme cinéaste pour la recherche avec vraiment cette idée de comment finalement le médium filmique est une méthode aussi pour la recherche. Donc si vous avez besoin que je discute un peu de ça plus tard, n'hésitez pas. Voilà, Arnaud.
Oui, Arnaud. Donc Arnaud Vestier, je travaille, non pas à la métropole, Nicolas, mais je travaille à la régie maintenant depuis, la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole depuis 2 ans. Voilà. Donc j'ai un parcours, plutôt technique et scientifique, pas de relation particulière avec la culture. Et voilà, donc j'ai travaillé en bureau d'études après effectivement cette formation à l'école d'ingénieurs Polytech Montpellier. Plusieurs bureaux d'études à La Réunion, en région lyonnaise, et puis après j'ai effectivement passé les concours de la fonction publique et j'ai intégré la ville de Montpellier à l'époque, où je me suis occupé du service des eaux. Et ensuite, la métropole de Montpellier, j'ai également poursuivi dans cette thématique de l'eau, eau potable, assainissement, inondation aussi. Je suis occupé effectivement de ça. Et puis maintenant, je suis à la régie, donc sur un poste qui s'appelle directeur urbanisme, prospective, environnement. Je suis pas sûr qu'ils disent bien son nom, mais l'idée, c'est d'englober la politique de l'eau et la politique d'aménagement du territoire, de faire ce lien qui est pour nous très important, essentiellement côté petit cycle de l'eau, mais on essaye effectivement de concilier le petit cycle et le grand cycle de l'eau à travers nos actions. Actuellement, on porte un certain nombre de dossiers majeurs sur 2025. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on a une étude de recherche, un petit projet de recherche avec le BRGM sur quel est l'impact du changement climatique sur la productivité, on va dire, de la source du Lez. On a un projet de recherche avec l'INRAE également, avec une collègue à Marie avec ta collègue Marielle, voilà, sur l'observatoire des consommations en eau. Donc c'est quelque chose, qu'on souhaitait développer depuis longtemps et qui doit nous permettre de mieux comprendre en fait la consommation des gens, de développer des fonctions de demande en eau et par derrière du coup l'idée c'est connaître, mais pour faire quoi ? Pour essayer de cibler de meilleures actions pour tendre les gens vers la sobriété hydrique. C'est un peu l'idée. Après, on a un gros projet de réout, la réutilisation des eaux usées traitées qui commence cette année, après 15 mois d'instruction réglementaire par les services de l'État. Donc là, c'est un gros projet qu'on appelle le Life Rewa. On pourra aussi y revenir si on le souhaite. Et puis, notre nouveau schéma directeur d'assainissement, c'est une étude programmatique qui doit, à l'horizon 2028, nous définir toutes les actions qu'on a à mettre en œuvre dans le domaine de l'assainissement des eaux usées à l'horizon 2040. C'est l'horizon du SCOT et aussi du PLUI, puisque le PLUI, c'est 2034. Voilà, bon, pas plus.
On va essayer de se rencontrer sur ces domaines très différents. Avec cette thématique donc, qu'on nous a proposée, les mémoires de l'eau. Et en fait, c'était drôle parce que tous les deux, on essayait de creuser de ce que ça pourrait évoquer dans nos disciplines et nos pratiques respectives. Moi, j'aimerais bien, lorsque j'entends mémoire de l'eau... Vous parlez de quelque chose, c'est que finalement, alors j'en parle dans le film Méandre la rivière inventée, c'est que, c'est-à-dire ça commence un peu le film, de prendre conscience que lorsqu'on regarde les rivières, en tout cas notamment en France, et je pense qu'on peut dire ça de toutes les rivières quasiment, les rivières sont aujourd'hui des écosystèmes qui ont été complètement transformés, anthropisés, et où leurs usages, les usages multiples et également les ont écartelés, les ont transformés en machines organiques. Je vous renvoie au livre de Richard White qui montre comment la Columbia River est passée d'une rivière, un delta extraordinaire, à finalement une rivière transformée en machine pour les besoins de l'homme. Et donc finalement, ça a tellement été transformé que finalement on n'arrive même plus à voir qu'est-ce qui est transformé. Et je voulais prendre l'exemple pour ça de la cascade de la Vis, qui est vraiment connue très très bien dans la région. Comme il y a un panneau qui inaugure ces cascades lorsqu'on arrive. Je ne sais pas si vous voyez, c'est de Gange vers Gorniès, et il y a marqué cascade de la Vis, un patrimoine naturel remarquable. Et c'était amusant de le remarquer l'autre jour en me disant mais c'est incroyable parce que c'est un mur de plusieurs mètres de haut qui est installé depuis plusieurs siècles. Et donc finalement, la Vis et cette cascade qui, pour les gens, est photographiée comme un patrimoine extraordinaire en termes de biodiversité, est en fait un artefact naturel, quoi, vraiment une construction humaine. Et donc je voulais qu'on commence peut-être par ça, par toute cette difficulté du visible et du non-visible dans la question des rivières, et notamment en faisant écho à ton travail, particulièrement sur le karst. Je te fais une petite passerelle. Parce que voilà, autant il y a vraiment un brouillage de ce qu'on peut considéré comme le naturel, et donc bon, je sans rentrer dans le détail des travaux de Descola, mais peut-être que vous êtes un peu familier de ça, de toute ce brouillage entre ce qu'on pourrait dire distinct de nous, le naturel, et en fait finalement que ces artefacts naturels, ils sont totalement imbriqués avec nos activités humaines, et aussi qui font écho à ce karst où finalement n'est visible que des résurgences, qu'une partie infime de tout le réseau hydraulique. Voilà.
Oui, le karst a cette particularité, effectivement, il rend l'eau invisible. On avait un projet de préservation sur l'aspect qualitatif de l'eau du karst du Lez qu'on a mené sur son bassin d'alimentation, là, donc plutôt sur la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup, je sais, les secteurs de Saint-Gély, Saint-Mathieu, Val-Flonès, enfin, l'appellation, Pic-Saint-Loup, jusque Claret, Corconne, voilà, donc on est sensibilisé, notamment les agriculteurs rapport à leur pratique agricole pour qu'elle soit la plus vertueuse possible. Et effectivement, on avait cette difficulté de que l'eau, elle est pas visible sur ce territoire. Je suppose que vous êtes nombreux à connaître un peu ce territoire, parce que effectivement, sur une zone karstique, on a l'eau qui s'infiltre directement, ou alors elle coule effectivement dans la plaine, notamment autour de Valflonnès, dans des cours d'eau, mais qui eux-mêmes se perdent. On appelle ça des pertes, et vont rejoindre immédiatement le karst, ce compartiment d'eau souterraine. Voilà. Donc il y en avait cette difficulté. Donc le projet s'appelait Eau Montlaise, et c'était d'essayer de rendre visible cette eau invisible.
Et mais d'ailleurs, enfin, j'essaie de faire l'animation en même temps. C'est très... D'ailleurs, donc j'avais lu que le plateau karstique du Laize avait une aire d'alimentation de 480 km². Et donc, du coup, je trouve que c'est assez fascinant de se dire que finalement, c'est un territoire énorme. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément la maîtrise des activités humaines. Et donc, j'imagine que c'est un enjeu fort pour la potabilité.
Le territoire, c'est anthropisé. Alors, il a la chance de rester encore relativement, sur ses 480 km², relativement naturel, mais il est quand même, même dans ces zones naturelles, il y a des activités, notamment d'élevage, même si elles remontent à l'époque de postes chasseurs-cueilleurs. Mais on a aussi toute cette activité agricole, et puis les pressions anthropiques domestiques, liées au rejet des eaux usées, des particuliers qui vivent sur ce territoire, que ce soit à travers des systèmes collectifs ou des systèmes d'épuration autonomes. On a effectivement tu le rappelais effectivement, alors non seulement on n'est pas la majorité de ce territoire n'est pas sur la métropole de Montpellier, et puis c'était aussi la particularité, on l'avait évoqué à l'époque, il y a eu une déclaration d'utilité publique pour effectivement exploiter une ressource en eau, on doit passer par un dossier d'autorisation avec une enquête publique et un dossier et une déclaration d'utilité publique signée par le préfet. C'est celle de la source du Laize est signée par le préfet de l'Hérault et du Gard. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le territoire de la métropole, on est à cheval sur plusieurs communautés de communes, celle du Grand Pic Saint-Loup, celle de la vallée de l'Hérault, celle du Vidourle, et puis ensuite on va encore sur effectivement celle des Cévennes gangeoises et suménoises. Voilà. Je crois que ça s'appelle. C'est pour dire que on a un territoire très très vaste et qui est compliqué pour nous effectivement à surveiller ou à protéger. C'est pas forcément notre rôle dans le domaine de l'eau, qui est un domaine extrêmement réglementé. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a aussi évidemment comme acteurs les services de l'État qui sont la police de l'eau et qui sont là effectivement pour aider à réglementer tous les usages et à surveiller. Mais on est là aussi pour accompagner.
Peut-être que je peux faire le lien avec mon travail sur la restauration écologique. Cette multiplication des usages ne doit pas vous étonner, j'imagine, mais lorsqu'on s'intéresse à la restauration écologique des rivières, cet écartèlement entre les usages devient vraiment très, très intéressant, parce que du coup, on se dit, comment est-ce qu'on peut arriver à restaurer, c'est-à-dire à retrouver de l'agentivité, la possibilité d'agir pour les rivières dans des systèmes extrêmement contraints? Quelles sont nos marges et aussi par rapport à cette question de la mémoire de l'eau, finalement, si on veut retrouver, par exemple, des méandres, si on veut retrouver un espace de fonctionnement, un espace de d'activité sédimentaire, parce que moi je travaille vraiment là-dessus, comment on fait lorsque, généralement, on a construit, peut-être que vous le savez, mais on parle beaucoup en ce moment de remembrement avec un travail d'une dessinatrice là de BD qui a travaillé sur le remembrement, et comment finalement on a occupé au maximum les sols limitrophes des cours d'eau parce que les terres étaient plus fertiles, et donc finalement on a laissé très très peu d'espace aux rivières, on les a canalisés, on les a chenalisés, bref, et tout ça fait que finalement quand on veut restaurer se pose la question quelle place laisser aux rivières, et toutes ces controverses qu'on peut trouver sur les cours d'eau, c'est vraiment lié à ces usages multiples, et ce qui fait que souvent la restauration s'achève au stade des études. Et donc, du coup, C'est vrai que sur le lait, il y a énormément aussi d'usages. Et moi, ça m'interrogeait notamment le fait qu'il va y avoir le tram à côté. On en parlait l'autre jour en visio, qu'il va y avoir bientôt le tram à côté de la Valette. Là, je me posais la question. Effectivement, déjà, c'est un système extrêmement contraint avec une biodiversité quand même très fragile, et il est quand même bien protégé à son amont. Et je me posais la question de le fait qu'il y ait une surfréquentation. Comment est-ce que ça pouvait être géré et comment est-ce que on arrive à quelque part se connecter, avoir un lien avec les rivières sans finalement non plus les abîmer, les piétiner.
C'est un vrai sujet, hein, la fréquentation des zones naturelles touristiques. Hein. Il y a beaucoup d'articles sur ça en ce moment au niveau mondial, avec des surfréquentations, avec Instagram, etc. Et donc oui, peut-être que le tramway, là, qui va effectivement arriver à Clapier et qui desservira le site de la Valette, amènera peut-être plus de fréquentation. Après, je sais pas. J'avais craint la même chose avec la passerelle sur le Lez. Je sais pas si certains connaissent le secteur qui permet de traverser le Lez, donc sans déranger l'habitat du chabot du Lez, notre petit poisson endémique là, qui justement se niche dans les graviers. Donc bon, quand on traverse à pied, c'est pas top pour lui. Donc il y a une passerelle en bois qui a été mise en œuvre par le département entre le domaine de Restinclière et la rive droite du Lez pour rejoindre le domaine de Saint-Sauveur. Et moi, j'avais craint effectivement l'idée de la passerelle était très bonne, mais je m'étais dit, mais ça va être un appel d'air avec des voitures qui vont se garer partout et tout. Bon, puis finalement non. Donc peut-être aussi que les choses se régulent. Il y avait une étude de fréquentation qui avait été faite il y a 10 ans là, sur justement ce site là par le PTBLS. Quand on a mis en place le plan de gestion et qui montrait d'ailleurs, alors, les gens qui fréquentaient le site étaient plutôt bien au courant de son enjeu. Ils connaissaient presque tous le chabot. Enfin, voilà. On avait un public assez, je dirais, averti. Alors, peut-être qu'on aura pareil avec la Valette. Mais c'est à voir.
C'est ça que je pense, par exemple, sur l'Hérault, avec l'activité des canoës kayak. Et je trouve qu'il y a un paradoxe, enfin, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quand même un appel des philosophes, et même des sociologues, des anthropologues, à montrer qu'il y a vraiment une crise de la sensibilité de nos rapports avec le vivant. Et donc, finalement, il y a tout le paradoxe d'arriver, je trouve, alors qu'on n'a plus de on n'a plus de liens au quotidien avec les rivières, c'est des liens finalement de distraction, de loisirs, et parce qu'effectivement il y a pas si longtemps on avait une telle dépendance, parce qu'on devait extraire l'eau du puits, on devait boire, il y a quand même beaucoup moins d'agriculteurs, ce qui fait que je trouve que notre dépendance est devenue beaucoup moins évidente à saisir. Et donc je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe dans lequel effectivement ces moments de loisirs, même de balade, sont des moments même de baignade, de connexion avec ce vivant. Et en même temps, je pour avoir un peu travaillé à FNPACA, je me rappelle de fait qu'ils alertaient sur tous les petits barrages qu'on fait, qui viennent, ou le fait qu'on marche dans la rivière, ou les canoës kayak qui viennent en fait exploser les frayères et les vies infimes. Et donc je trouve qu'il y a un paradoxe et un vrai défi aujourd'hui, à la fois à garder ce lien fragile, ténu avec notre relation au vivant, sans finalement le détruire. Enfin, il y a, je trouve, quelque chose de paradoxal dedans.
Oui, alors d'autant que, mais sur le Lez, je sais pas, toi Marie, qui est une adepte du radeau pneumatique, je vois que dans ton film il y a un radeau, faut que tu explores les cours d'eau effectivement avec le radeau. Je sais pas si tu as essayé de le faire sur le Lez.
Un tout petit peu, oui.
Un tout petit peu, ouais, parce que donc il faut savoir quand même que j'ai recompté, parce que j'étais pas sûr de moi, mais c'est bien ça. Il y a 25 seuils sur 20 kilomètres de long, donc effectivement 25 seuils, ça fait plus d'un seuil par kilomètre.
C'est des petits murs.
Voilà, donc c'est pour dire que la navigation en kayak ou en canoë ou encore plus en radeau est pas évidente. Voilà, mais ces seuils, ils font aussi. Alors, ils ont évidemment des impacts forts sur l'écologie. On en reparlera peut-être sur le continuum pour les poissons migrateurs. Mais ils ont aussi, et ça me fait penser au thème effectivement de l'émission, les mémoires. Moi, c'était plutôt l'histoire et pourquoi ces seuils ils sont là. Mais c'est parce que On l'a un peu oublié, mais tous ces seuils avaient une fonction, effectivement, au Moyen-Âge ou même jusqu'au 19e siècle. Hein, certains ont servi pour faire de la farine. Hein, il y en a encore, il y a la dernière ou la minoterie la plus ancienne de l'Hérault, avant qu'elle soit électrifiée au 20e siècle, utilisait l'énergie hydraulique du Lez. Hein, c'est le moulin de Sorey dans le quartier des Aubes. Vous achetez souvent une baguette avec farine moulin de Sorey. Voilà. Je veux de la pub, mais tant pis, c'est pas grave. Et puis il y avait d'autres effectivement fonctions qui étaient le travail des métaux, voilà, des choses comme ça. Et il y avait alors, celui qui était à la source du Lez, pareil, faisait aussi, mais lui a disparu assez vite. Mais effectivement, les habitants des Matelles amenaient leur blé pour le moudre, le moulin de la Foule, hein, qui est le premier là où il y a maintenant le captage de la source du Lez. Et puis après, l'un des plus emblématiques aussi, lui fabriquait de la poudre à canon. Le moulin bleu à Castelnau, là, avant d'être transformé en cabaret, moulin rouge, moulin bleu. Mais voilà, et au départ, il s'appelait le moulin de la Poudrière jusque fin 19e siècle, je crois. Voilà, après, voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est tous ces usages qui ont disparu. Et c'est vrai que, par contre, les barrages, les seuils, les chaussées aussi, on les appelle, sont restés. Et maintenant, peut-être, effectivement, dans certains cas, oui, pose un problème, effectivement, dans l'aménagement du fleuve.
Oui. Alors, bien sûr, il y a toute une politique de restauration sur l'effacement des seuils, l'effacement des barrages pour retrouver de la continuité sédimentaire et écologique. Donc en gros, concrètement, que l'amont et l'aval puissent être reliés, sachant qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 60 000 obstacles à l'écoulement qui ont été répertoriés. Donc, et ça, c'est très intéressant parce qu'on revient sur une démarche un peu plus immersive. Pourquoi dans le film que j'ai fait, on a fait une descente de la vis de l'Hérault et de l'Hérault en radeau, c'est que justement, toujours sur cette question de finalement comment est-ce qu'on arrive à rendre visible et à ressentir l'extrême aménagement des cours d'eau. Bah, le radeau, c'est absolument incroyable parce que finalement, c'est tellement peu navigable que je peux vous dire que chaque obstacle, on le sent passer. Parce que du coup, il faut sortir de l'eau, il faut. Bon, le radeau, c'était vraiment un très gros radeau. En plus, on avait tout le matériel derrière nous avec 90 kilos à porter à chaque fois. Et donc, en fait, on s'est, notamment sur la vis, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait, je sais pas, mais je me rappelle même plus le nombre de d'obstacles qu'on a traversés, mais c'était incessant. Et ça nous permettait vraiment de saisir physiquement, corporellement, par cette façon très ludique, hein, le fait que, on imagine bien que, du coup, les poissons, mais pas que les poissons, mais aussi les graviers, les larves, même les espèces, plus ténues, quoi, sont compartimentés, quoi. Et ça, c'est vraiment le fait de le vivre pendant une semaine. C'était une expérience incroyable pour ça. C'est que je trouve que du fait, encore une fois, de notre perte du lien, de notre dépendance, de la conscience de notre dépendance avec l'eau, on peut avoir du mal à c'est-à-dire que c'est très différent de se baigner et de enfin, c'est formidable, j'adore, hein, mais se baigner et profiter de la rivière et de vraiment essayer de se mettre à la place d'eux. Et d'ailleurs, ce qu'essaye de faire Bipolar avec plein de choses qu'on a pu faire ensemble. Mais voilà, je voulais un petit peu faire cette petite distinction. Et sur cette, et aussi renvoyer à donc le film que j'ai fait parle aussi de ça, d'avoir conscience, enfin de se poser la question. Et je pense que d'un point de vue écologique et politique, c'est une question qui est importante pour moi, de poser la question à quoi sommes-nous reliés. C'est une question que posait Bruno Latour dans Où atterrir, et qui effectivement fait que on pourra y arriver, c'est que aujourd'hui ces liens de dépendance sont difficiles à saisir, et rien que j'interroge dans le film d'où vient l'eau que l'on boit, et on en parlait tout à l'heure. Moi, je viens de Viol-le-Fort, et je ne sais pas, en plus on est dans un territoire extrêmement aride, d'où je ne savais pas d'où venait l'eau que je buvais, et d'ailleurs j'avais cherché, heureusement qu'on se rend compte, de savoir d'où venait l'eau qu'on boit. J'apprends qu'elle vient des Matelles, mais je veux dire, même cette chose la plus fondamentale de ça vient d'où l'eau qu'on boit, eh ben, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Peut-être plus facilement à Montpellier. Et encore, est-ce qu'en été, on sait que ça vient de l'eau du Rhône? Enfin, je sais pas. Je suis pas sûre qu'en fait, il y a cette conscience-là. Et pourtant, je pense que c'est le début d'un engagement politique qui nous relie au vivant. Voilà.
Je pense que c'est un peu sur les territoires où les gens globalement savent pas vraiment où d'où vient l'eau. Après, ça s'explique aussi, c'est-à-dire que on peut pas, pour des grosses agglomérations, l'eau elle vient, on la puise pas au milieu de l'agglomération parce qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre des périmètres de protection dans des zones urbaines. Et donc forcément l'eau elle vient de l'extérieur, surtout si c'est de l'eau souterraine. Après bon, il y a quelques exceptions où on peut avoir des prises d'eau sur des cours d'eau, des gros fleuves, effectivement, bon, mais tout ce qui est d'origine souterraine, je veux dire, vient en général de loin. Toutes les grandes collectivités du monde occidental, finalement, ont des points de prélèvement qui sont très éloignés, mais qui font qu'on perd le lien, effectivement, entre le citoyen consommateur et puis le lieu de prélèvement. Alors peut-être que c'est notre faute, nous autres professionnels, faudrait qu'on communique plus, je sais pas. Qu'on invite tout le monde à Source du Lez pour des événements culturels, par exemple, qui vont bientôt arriver. Mais oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites sur des animations, le Lez en tant que personne morale, voilà, et qui revendique qu'on l'a un peu corseté et qu'on l'épuise. Donc il y a beaucoup de projets culturels qui sont faits aussi pour faire connaître un peu ce monde-là. Et ton nom vient effectivement des Mattel.
Mais je pense que c'est au-delà de la problématique de communiquer. Je pense que tout simplement l'artefact de d'ouvrir le robinet. Enfin, c'est pas du tout. Je critique pas du tout. Évidemment, je veux vraiment pas dire qu'il faudrait faire autrement. Mais c'est plutôt que je pense que de fait, ça nous amène à ne plus interroger. C'est ça que je voulais dire en fait.
Oui, mais paradoxe même, c'est que parfois je me demande si les gens ils savent pas mieux où vont leurs eaux usées, leurs déjections. Parfois, peut-être qu'ils le savent plus parfois que d'où vient l'eau qui est au robinet. C'est un peu le paradoxe parfois, oui.
Et particulièrement sur un plateau karstique, oui. Où du coup, c'est ça qui est fascinant avec le karst justement, c'est que potentiellement elle vient d'extrêmement loin. Quoi.
Dans toutes les régions karstiques, effectivement, on a un peu le même phénomène, notamment aussi dans le Jura, là, dans le Doubs.
Alors, voilà. Donc, voilà, on a essayé de croiser. Est-ce que vous avez des questions de... plein de choses, de tout ce qui vous vient à la tête, aucun problème.
Bonsoir, je suis Vincent Marcilassi, merci de votre présentation très, très intéressante, on apprend beaucoup de choses. Je vais plutôt me tourner dans un premier temps vers la chercheuse et cinéaste. Alors cinéaste ou scénariste, je ne sais pas quelle était exactement votre mission, parce que j'ai pris le temps de regarder la bande-annonce du film assez courte, mais qui me surprend, et justement parce qu'elle est, vous parliez de film documentaire, mais dans le court extrait que l'on voit, on a plutôt l'impression d'une fiction, et d'une rencontre. Alors encore une fois, c'est très court, hein, c'est une minute, je ne sais pas combien de temps fait le film d'ailleurs dans son ensemble, voilà, donc beaucoup plus longtemps, mais on a vraiment l'impression justement d'une rencontre presque organique entre, alors je crois qu'on voit un homme simplement nager ou marcher dans l'eau, on voit ensuite quelques éléments, quelques êtres vivants de l'eau. Donc comment s'est construit ce film et qu'est-ce que justement crée le scénario presque fictionnel et qui n'a pas l'air documentaire comme lien avec nous mortels face à cette question du vivant essentiel que vous avez très bien décrite?
Alors, c'est vrai que c'est compliqué de parler d'un film si vous l'avez pas vu. Alors concrètement, il y a trois registres en fait dans ce film. Il y a un registre fictionnel où on se met en scène le co-réalisateur de deux amis et moi sur un radeau où on descend la vis et l'héros. Et effectivement, pour nous, c'était important, comme je disais précédemment, parce que justement, on s'immerge, on se met en danger, en plus moi j'ai extrêmement peur de l'eau, donc je me suis c'était vraiment sincère. Il y a toute une scène comme ça où je saute dans l'eau et je suis absolument effrayée, donc c'était aussi pour vivre depuis la rivière. Et se mêle à ce registre un registre scientifique, donc où on rencontre scientifique et habitant, où on rencontre des gens qui nous parlent de qu'est-ce que c'est que restaurer, qu'est-ce que c'est de comprendre les vivants infimes et multiples de la rivière, et un troisième registre que je dirais beaucoup plus expérimental et sensoriel, très organique, où là vraiment on fait un travail de d'exploration filmique, où on essaye de se mettre à la place des non-humains, notamment à la place des larves, donc par exemple l'éphémère qu'on filme, un petit insecte, est filmé avec la même focale que la scientifique qui l'observe. Ou alors on a également filmé sous l'eau, au niveau des graviers. Donc on voit les transports sédimentaires, on voit vraiment les graviers qui se déplacent. On peut saisir le mouvement sédimentaire grâce à la caméra, ce qui est quand même quelque chose, enfin, moi, en tout cas je n'ai jamais vu dans un film, vraiment que effectivement les graviers en fait bougent en permanence dans un cours d'eau. Évidemment aussi avec le son, avec un son très très travaillé pour qu'on approche ce que serait du coup une subjectivité non humaine, quoi. Voilà.
Alors je ne vais pas retenir la parole, j'avais juste deux autres petites questions. Comment précisément a été perçu le film par rapport à cette question-là du vivant, de cette manière-là, et où est-ce qu'il a été vu ?
Alors, il a évidemment été perçu, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, donc je ne peux pas vous dire toutes les personnes. Je pense qu'il y a des gens qui ont été absolument... Une des premières, on va dire, des plus fortes impressions, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'en fait, c'est comme si ça avait rendu conscient beaucoup de gens que j'ai rencontrés de leur attachement justement avec les rivières. Et c'est ça qu'on cherchait, donc on était très heureux. Donc ça, c'est le plus gros résultat. Et aussi, on a pu le montrer autant à des publics scientifiques, techniciens, que dans les festivals de cinéma. Donc justement, donc les publics, il a une belle vie dans les sphères de cinéma. Il était au Cinémède, il a eu le prix Jean Rouch, le prix Gaïa à Jean Rouch. Il a eu un prix aussi au Festival Paris Science. Donc il a vraiment une vie dans les festivals de documentaires, mais aussi moi je me rends régulièrement sur le terrain pour justement faire ce lien avec des syndicats de rivières pour réfléchir ensemble à des projets de restauration. Mais je pourrais laisser le lien parce que c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir échanger sur le film lui-même. Ah oui, eh ben en septembre prochain, pendant Montpellier 2028, la route de l'eau, on va le montrer à Bouillon-Cube et à La Grange. Et en plus, on va faire des ateliers de construction de radeaux. Voilà, c'est en septembre, vous avez le temps.
Bonsoir, merci pour cette présentation, introduction. Mathieu Argaud, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport, vous avez attaqué tout de suite sur cette question de technostructure, de technofleuve et de la question des liens qui sont distendus, etc. Et ma première question va à Arnaud Vestier, c'est comment vous avez envie de vous en occuper, cette question des liens, qui est quand même normalement pas trop du registre d'une régie des eaux. Et puis l'autre question que j'avais, c'était pour toi Marie, c'est qu'est-ce que ça fait justement aux agents de la restauration, de la restauration de rivière, ce film et ce que vous avez pu construire et montrer dans le film.
Oui, alors c'est pas, effectivement pas forcément le rôle de la régie, mais je distinguerais deux choses en fait. Il y a le lèse visible, puis il y a le lèse invisible. C'est pas pour y revenir, mais il faut bien comprendre que le karst du lèse, c'est pas juste une matrice rocheuse. En fait, c'est un véritable fleuve souterrain. Et un véritable fleuve souterrain, c'est la 7e source de France. C'est pour ça qu'elle est très abondante et qu'elle a permis le développement de la ville de Montpellier. Donc il y a bien un fleuve invisible et un fleuve visible. Les deux doivent cohabiter, parce que si on épuise le fleuve invisible, eh ben le fleuve visible on le verra encore moins, il n'y aura plus que du Rhône dedans, mais c'est pas le but. Et donc nous, je pense qu'à la régie, c'est vrai que le on va dire que le fleuve visible, on est plus sur des enjeux qui sont portés par la métropole à travers notamment la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Et puis nous, effectivement, on sera peut-être plus sur le fleuve invisible, c'est-à-dire sur le karst du Lèze, parce que c'est la ressource qui va alimenter les Montpelliérains, et on a de gros enjeux de préservation, donc de qualité, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de quantité, puisque l'impact effectivement du changement climatique peut peut-être amener à avoir une source moins productive. C'est l'objet notamment des travaux de recherche qu'on a actuellement.
Et concernant ta question, du coup, par rapport aux agents de la restauration, en fait, ce qui est très beau, donc des personnes qui sont venues me parler, évidemment, parce que je sais pas, parce que généralement, c'est ceux qui aiment bien qui viennent me voir. mais en fait, beaucoup me disent, me remercient parce que ça leur rappelle pourquoi ils font ce métier-là. Et ça me fait très plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent, c'est un film qui parle vraiment des attachements et de notre lien aux rivières. Et donc,
ça redonne du sens. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent souvent. Ça leur donne du sens. Et ça, c'est aussi, dans un second temps, ça, c'est aussi un film qui peut être vu et par des agents de la restauration, justement, et par des citoyens, parce que justement, il y a une symétrisation, au sens, encore une fois, latourien, désolé, je suis latourienne, le fait qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de hiérarchie de paroles et de points de vue entre ceux des scientifiques et ceux des habitants, entre ceux des humains et ceux des non-humains. Et donc, du coup, ça met tout le monde un peu au même niveau, et ça permet donc, lorsque j'ai pu faire des débats avec des assemblées très mixtes, très cosmopolites, de justement que chacun puisse parler de son expérience de la rivière sans se sentir inférieur ou non légitime.
Moi, je reviens sur l'histoire du karst, parce que finalement, quand on parle de, notamment d'une représentation dans le domaine de l'artistique, on parle de ce qui se voit, le regard, de ce qui s'entend, l'ouïe, l'écoute. Et là, on parle de quelque chose qui est à la fois invisible, mais muet. Et c'est vrai que j'ai beau savoir conceptuellement ce que c'est qu'un karst, je me suis toujours demandé, mais ça veut dire quoi, un fleuve souterrain? Et donc j'imagine comment vous, en tant qu'ingénieur, c'est un peu comme, je pense aux personnes qui travaillent dans le domaine du microscopique ou qui travaillent sur la question des la théorie des cordes ou quoi que ce soit, c'est des scientifiques qui ont beaucoup de mal, finalement, à parler de ce qu'ils font. Est-ce que vous, quand vous parlez des karsts, c'est la même chose? C'est-à-dire qu'il y a des schémas, mais finalement, on n'a jamais vu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un karst? Et la question qui... Non, mais ce que je veux dire, c'est concrètement, comment rendre sensible quelque chose dont aucun humain, à part les scientifiques, n'ont jamais fait l'expérience? Et en quoi le recours, finalement, à l'art, aujourd'hui, peut être une manière de rendre sensible quelque chose, encore une fois, dont on ne fait pas l'expérience dans notre quotidien? On ne voit que la partie visible.
Oui, effectivement, le karst, c'est pour l'appréhender, souvent on fait on imagine déjà un fonctionnement hydrogéologique. Alors on fait on se dit mais il y a un compartiment, là il y en a un autre, donc on modélise en simulant des réservoirs qui se vident les uns dans les autres, des communications, etc. Mais et alors après on vérifie parfois aussi tout ce raisonnement basé aussi sur l'histoire de la géologie du secteur. Alors on a deux manières de le voir, c'est rigolo d'en parler, mais on a les traçages, ce qu'on appelle les traçages. Donc on injecte des colorants dans des trous, et puis on regarde où ça sort. Donc c'est des colorants type fluorescéine, vert fluo, et voilà. Et donc comme ça, on arrive à confirmer les hypothèses qui ont été faites en disant, ben là effectivement, on a injecté du colorant, il est sorti là. On mesure la concentration, ça permet de mesurer la dilution, donc d'avoir des idées des secteurs qu'il a passé. Et puis on mesure aussi le temps qu'il a mis pour ressortir. Parfois c'est très long, parfois c'est très rapide. En général, dans les karsts, et ça confirme l'importance, la transmissivité de l'aquifère, c'est en général assez rapide. Et puis quand même, il y a des fois on voit, parce que quand même on a la possibilité de rentrer dans les karsts. Et on a des plongeurs spéléo, de milieux karstiques. Et en ce moment, ils sont d'ailleurs à la source du Lez. Et oui, ils rentrent et ils font un film. Bon, c'est pas un film à visée culturelle ou artistique, hein, je suis désolé, mais on leur a demandé de faire un peu de prise de vue, effectivement. Donc ils explorent le conduit karstique qui va de la sortie de la source, que la résurgence, jusqu'à la salle de pompage, l'usine souterraine. Puis ils essayent d'aller encore un peu plus loin. Voilà. Alors il y a des difficultés parce que, alors quand il y a pas assez de niveau d'eau, il faut marcher à pied, c'est pas possible. Quand il y a trop de débit, ben oui, c'est compliqué, ils peuvent pas se circuler. Puis quand il y a trop de débit, il y a de la turbidité, donc on voit rien. On a des images, mais on a la lumière qui se reflète sur les particules, donc on voit rien. Mais là, les dernières fois, ils nous ont donné quelques prises de vue vidéo qui étaient sympas, avec même du bruit, mais c'était le bruit du scooter. Ils ont des scooters pour éviter de palmer, donc c'était le bruit on entendait. Et quand d'un seul coup, c'était complètement silencieux parce que le moteur était arrêté, puis après ça repartait, ça faisait tchouk 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 tchouk. Voilà, bon, on a quand même, on le vit un peu, le karst, voilà, pour répondre à la question, à travers ce genre d'expérience de traçage ou de plongée subaquatique.
Et si je peux rebondir, parce que ça m'intéresse particulièrement, cette question de Est-ce que c'est parce que c'est visible qu'on y est sensible? Moi, ça me touche beaucoup parce que finalement, les rivières. Donc, pour travailler mon film, j'ai regardé des dizaines et des dizaines et des dizaines de films avec des rivières dedans. Et en fait, j'ai été marquée par le fait que on filme souvent les rivières de la même façon. Alors, encore plus avec les drones, c'est-à-dire qu'en avec les drones, le fait qu'on les filme de très haut, donc de façon très détachée, comme ça, comme très très loin. Et ou alors, lorsque je pense aux poissons, par exemple, on filme les poissons comme si c'était des sujets centraux. Donc on met le poisson comme si effectivement il nous apparaissait, il se donnait à nous comme ça, pof, et on le suit. Et finalement, on essaie des images qu'on est habitué à voir comme ça. On a une sorte de on attrape le sujet du vivant de manière un petit peu toujours un peu la même. Et donc finalement je trouve que c'est ou même la rivière, on a toute cette image de la rivière, on voit tous un cours d'eau qui scintille en cascade, etc. Et finalement je trouve que c'est là où peut-être la démarche artistique vient faire un petit pas de côté. Enfin je vais dans ton sens aussi pour le débat, c'est que finalement ça ne vient plus interroger nos modes de représentation et de qu'est-ce que c'est justement qu'une rivière. Et donc l'idée de Méandre, c'était d'essayer justement de filmer autrement. Alors je pense qu'il y a mille façons de filmer des rivières, mille façons de filmer du karst, mille façons de rendre compte de quelque chose qui est aussi complexe. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant dans la démarche artistique.
Je m'appelle Laure Le Prouvot. Oui, quand vous parlez de visible et d'invisible, de se reconnecter avec la rivière, etc., moi, je pense à tout ce qui est rivière en milieu urbain. Autant que je sache, il y a 11 cours d'eau sous Montpellier. Il n'y a pas que le Lez et la Mausson. Donc, comment se reconnecter avec toute cette eau qui est présente sous nos pieds et comment réapprendre à apprivoiser l'eau en milieu urbain?
Oui, effectivement, il doit y avoir 11, je ne sais plus, mais oui, une dizaine à peu près, le Lantissargue, le Rio Coulon, le Chambéry aussi, qui est un affluent du Verdançon, etc. Oui, oui, ce sont des rivières. Alors, elles ne sont pas toutes invisibles à Montpellier. Moi, je connais des secteurs urbains où la rivière est complètement recouverte. Il y a eu, je crois, du côté de Valence, une expérience de remettre complètement la rivière. Je sais pas, tu en parleras peut-être parce que moi je connais pas bien, mais j'avais lu un article, mais voilà. Il y a aussi du côté de Saint-Chamond, on voit ce secteur aussi où les rivières ont été complètement recouvertes, ce qui pose plein de problèmes indépendamment de l'aspect naturel. On a encore la chance de les avoir parfois un peu visibles, effectivement. Le Chambéry, on le voit, le Verdançon aussi. Je pense qu'on pourrait améliorer encore un peu les choses, effectivement, reconquérir, mais une rivière, pour qu'elle soit vivante en milieu urbain, faut qu'elle puisse respirer. Moi, je dis toujours, c'est ça, c'est respirer. Quand vous respirez à fond, vous ouvrez vos poumons, bah vous élargissez le champ d'occupation. Et c'est le problème, c'est que voilà, rapidement vous allez trouver des maisons, des habitations, des routes, des infrastructures qui empêchent de retrouver vraiment cette respiration. Alors on fait parfois des bassins de rétention justement pour que les eaux puissent s'étaler en faisant des couplé à des parcs naturels, des choses comme ça, mais ça reste un fonctionnement anthropisé qui est pas idéal. On a perdu ce rapport. Dès que le lit s'enfonce un peu, c'est que c'est foutu. C'est voilà, la rivière normalement, elle doit avoir pas une grande profondeur et elle doit pouvoir se circuler, s'aérer.
Oui, alors je suis pas du tout spécialiste de la restauration urbaine, mais c'est vrai que je trouve que c'est un enjeu, bon, vraiment là pour le coup sociologie des sciences très fort, parce que il y a de plus en plus de projets qui viennent découvrir, ramener les cours d'eau à l'air, et je trouve ça très beau, en plus même symboliquement c'est très fort, mais c'est vrai que j'ai parlé avec une ingénieure en restauration morphologique qui me disait que alors ça vient reconnecter quelque chose de symbolique, mais d'un point de vue biologique, écologique, ce qui est très compliqué effectivement, comme disait Arnaud, c'est que il y a tellement de contraintes, il y a tellement d'usages, et on a pas envie, enfin peu, très peu ont envie de rogner et de il faudrait évidemment détruire, parce que ce lit reste très corseté. Donc un lit corseté, malheureusement, la rivière a besoin d'espace, a besoin de déborder, a besoin de gratter les berges. Et c'est pour ça qu'ils ont tout bétonné. Et c'est moi ça me désole aussi. Et je pense qu'il y a certains secteurs, je pense un peu plus pour le coup des secteurs qui ont été bétonnés en milieu ruraux, qui pour le coup pourraient être débétonnés. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. En milieu urbain, c'est vrai que c'est terrible parce qu'effectivement, elles sont un petit peu sacrifiées. Elles sont clairement sacrifiées, même ces rivières. Après, je voulais parler du travail que fait un collectif marseillais, les Gamards, sur le réseau des Égalades qui traversent Marseille. Et eux, en fait, c'est un cours d'eau qui est clairement sacrifié, hein, qui est extrêmement pollué, qui est corseté aussi, mais où, en fait, tout un collectif va vraiment organiser des conférences, il y a des performances dans ces eaux, et donc finalement la rivière est de plus en plus considérée et c'est donc il y a des petites initiatives comme ça et je pense qu'il faut les encourager mais c'est vrai que c'est quand même difficile. c'est des rapports douloureux, ouais.
Au fait, ma question, elle est un peu sur cette question de l'invisibilité aussi parce que c'est vrai que l'eau on la considère souvent en tant que ressource. Beaucoup plus en tant qu'écosystème vivant, avec comme vous dites, il y a plein de points de vue différents sur cette eau qu'on n'a pas nécessairement peut-être pas encore les capacités de pouvoir les comprendre, mais politiquement ou la question du récit, elles sont pas nécessairement mises en avant. Donc je sais pas, la question c'est qu'est-ce qu'on peut actuellement faire, soit d'un niveau plus scientifique, soit d'un niveau plus social, pour mettre en avant ces différents récits, même s'il y a pas mal d'initiatives qui ressortent, il y a plein de chercheurs qui se posent cette question de comment donner la possibilité à d'autres espèces de donner leur récit. Mais qu'est-ce qui était possible aujourd'hui, actuellement, pour donner la parole à ces autres espèces pour sortir un peu de la vision très humano-centrée de la question de l'eau qui est très présente actuellement?
Moi, c'est une question. La question que tu poses, là, elle est vraiment... Elle est vraiment au cœur de ma vie. Enfin, vraiment, de comment est-ce qu'effectivement on développe d'autres alliances avec le vivant, comme dirait Morisot. Et je partirai peut-être de lui parce que c'est vrai qu'il est assez, c'est assez étonnant ce qu'il fait en ce moment. Je n'ai pas entendu parler. Il travaille avec une Tassienne qui s'appelle Suzanne Husky et il développe tout un travail. En fait, il c'est donc Baptiste Morisot, c'est un philosophe de la nature qui est en train de, enfin, il fait un truc un peu dingue où il essaye de faire des alliances avec les castors. Et il a écrit un livre qui s'appelle Rendre l'eau à la terre, que je vous conseille. C'est un peu un ovni. Et à la fois, il travaille comme philosophe sur comment est-ce qu'on nourrit de nouvelles alliances diplomatiques avec les vivants. Et en même temps, il forme des techniciens de rivière et des ingénieurs en restauration pour apprendre les techniques castor low-tech, où ils mettent en gros, ils imitent les barrages castor pour réhydrater les sols. Enfin, et donc effectivement, ça c'est moi, j'étais tellement à fond que je me suis dit ah bah il faut, je vais me réorienter, je vais faire des barrages castor. Là au moins il y a du concret. Mais c'est vrai que c'est une question qui est très très pertinente parce que c'est compliqué, je trouve, même moi qui c'est ma passion, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui est au cœur de mon travail, mais j'ai vraiment du mal en fait à garder ce lien parce que j'habite pas au bord du cours d'eau, moi. J'ai Viol-le-Fort, c'est à 3 km de l'Hérault à vol d'oiseau, et en fait garder cette alliance permanente. Et en plus, je suis pas agricultrice. Enfin, voilà, elle est compliquée, je trouve, quand on n'est pas dans ce réseau de dépendance dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut essayer des choses.
Marjolaine Combe, je travaille avec Mathieu et Astrée à l'agence Bipolar. Moi, je voulais à tous les deux vous demander quels pouvaient être des leviers qui nous mènent quand même à reconnecter, à recréer ce lien et à reprendre conscience aussi de cette interdépendance. Il y a un grand mouvement, je dirais, international aujourd'hui autour des questions de droit de la nature. Il s'avère qu'ici, avec l'expérience qu'on a menée, où on s'est croisés tous les deux avec un groupe d'habitants autour du Lez, qui a été mené notamment dans le cadre de M28 en 2023. On a poursuivi la réflexion avec ce groupe d'habitants et on a abouti aujourd'hui à un texte qu'on a appelé Déclaration des droits du Lez, qu'on n'a pas encore rendu réellement public parce qu'on vient de le finaliser, qui retrace à la fois notre expérience très sensible qu'on a eue, mais aussi d'apport de connaissances plus techniques et scientifiques lorsqu'on a fait ce travail avec les habitants pendant 8 mois. Donc la singularité de cette démarche, qui n'est pas forcément la même que celle qu'on trouve dans d'autres expériences qui ont abouti à des déclarations de droits de rivière ou autres. Voilà, donc là, ça c'est un collectif de citoyens accompagné par nous, agences culturelles. On produit quelque chose, on produit des recommandations, etc. Et à quel moment, enfin c'est nous en tout cas, on essaie de travailler ça, mais ça peut passer, ça peut pénétrer la gestion de l'eau, la gouvernance de l'eau, devenir alors peut-être pas des nouveaux cadres réglementaires, mais en tout cas, par exemple, une déclaration des droits du lèse, on te l'enverra, Arnaud. Bientôt. Comment ça peut rentrer à un moment en compte, en tout cas, dans l'approche et dans les pratiques des ingénieurs, des techniciens qui sont des êtres sensibles comme les autres, pas de doute, pour que ça, je sais pas, ça fasse déplacer un petit peu quand on doit mener un projet de restauration ou de gestion d'une ressource, peut-être faire penser un peu différemment les choses.
Oui, bien sûr. Non, mais la déclaration des droits du lèse, on l'accueillera. Mais la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a fini par des séances de guillotinage. Je voudrais pas finir pareil avec cette déclaration pour avoir exploité, entre guillemets, exploité le lèse. Non. Non, plus sérieusement, c'est, je pense que ce type d'action, comme celle que nous on peut mener, elles sont là pour pénétrer. Alors, je pense qu'il faut pénétrer les citoyens déjà, et après, effectivement, ce sont des choses qui rebondissent sur les élus et sur les priorités des politiques qui sont menées, avec cette gestion des antagonismes ou des injonctions contradictoires. J'en parlais en préparant l'émission, entre la transition énergétique et le maintien de l'hydroélectricité, et donc des barrages ou des moulins, et puis leur arasement pour permettre le retour des poissons migrateurs, voilà. Et c'est pareil, quelle quantité d'eau il faut laisser au lèse et quelle est la quantité d'eau qu'on doit prélever pour assurer les besoins de la population. D'où le travail sur la sobriété hydrique pour que, à population égale, on puisse diminuer les prélèvements et que le lèse visible se porte mieux, peut-être. Voilà, c'est ces questions-là qui sont essentielles. Est-ce qu'il faut laisser le lèse complètement tranquille et se tourner vers une autre source? Faut-il alimenter uniquement avec l'eau du Rhône la métropole de Montpellier? Faut-il aller dessaler l'eau de mer? Voilà, ça peut être aussi des réponses, forcément un peu provocateurs de ma part, mais voilà, c'est ces enjeux-là. Mais en tout cas, je pense que on en parle quelque part jamais assez, de manière apaisée, parce que je pense que c'est pas des sujets qui méritent des controverses violentes. C'est pas utile, ça fait pas avancer le débat. Mais parlons-en le plus possible, effectivement. Et puis, ça éveille la conscience citoyenne. Ça permet encore une fois de prioriser les politiques publiques.
Et alors, moi, je voulais quand même préciser quelque chose. Enfin, pour moi, en tout cas, aujourd'hui. Les projets de restauration écologique de rivière sont construits quasiment uniquement dans des sphères techniques et scientifiques. Et ça, c'est quelque chose quand même, je trouve, qui est très critiquable. Alors effectivement, c'est difficile de co-construire des projets techniques avec les habitants, notamment dans leur multiplicité. Mais c'est quelque chose sur lequel, vraiment, moi, c'est vraiment le cœur de ma thèse. C'est que les projets de restauration qui aboutissent et qui sont, on va dire, des succès, ce sont les projets qui ont réussi à intégrer dans la phase de conception des études techniques les habitants, ce qu'ils souhaitaient, mais aussi les attachements. Et donc, quelque part, moi, c'est là où je dirais qu'il faut surtout pas que ça soit... On explique aux citoyens quelles sont les options techniques que nous avons, mais bien, et c'est de la difficulté, parce qu'effectivement, c'est un travail qui est énorme, hein, je suis complètement consciente, et d'ailleurs, vous pourriez en parler avec Caroline Canel du syndicat de Rivière du Vistre, qui, elle, est accueillie lorsqu'elle fait des projets de restauration par les fusils, et qui, après des mois et des mois et des mois et des mois de rencontres, est accueillie avec des œufs et des sourires. Donc, vraiment, c'est travail de lien et de soins entre des mondes techniques et des mondes habitants, je pense que c'est là peut-être qu'effectivement il y a des choses à faire pour les politiques de l'eau du futur. Voilà.
Je suis d'accord. Quand je rencontre des jeunes ingénieurs, parfois, souvent en conclusion de débat, on me dit mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les enjeux du métier d'ingénieur demain. Moi, je leur dis toujours, mais intégrer les sciences humaines et sociales dans vos réflexions, dans vos projets. On n'attend pas forcément d'un ingénieur qui soit lui-même formé, mais intégrer cette problématique dans les enjeux et dans vos projets.
Merci.
Merci.
Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.